Programme double, un podcast d'environ une heure dans lequel je vous présente deux œuvres cinématographiques ou télévisuelles ayant comme point commun une thématique, un acteur, un réalisateur ou faisant tout simplement partie de la même franchise. Le but de ce podcast est de vous informer sur l'historique de la production de ces œuvres tout en analysant leurs forces et leurs faiblesses, le tout enrobé d'une sauce très rétro placée dans une ambiance style cinépark. William Neil Harrison viendra au monde le 29 octobre 1933. Adopté par Samuel Scott Harrison et Mary Etta Cook, il grandira à Dallas, au Texas, où il fréquentera l'école publique. Ce sera sa mère adoptive qui l'initiera à l'écriture, cette dernière étant une grande lectrice et tenant des albums de coupures de presse détaillées, mettant en scène des membres de sa famille et des célébrités, tout en écrivant également de multiples poèmes. Le jeune William étudiera par la suite à la Texas Christian University, où il deviendra rédacteur en chef du journal du campus, appelé The Skiff. Il transférera par la suite à l'Université Vanderbilt, où il étudiera pour devenir professeur. Marié en 1958 à Merle Portman, cette dernière accouchera d'un garçon, ce qui forcera le jeune couple à déménager en 1961 dans l'Iowa, où Harrison suivra un programme d'écriture créative au Iowa Writers Workshop pendant plus de 10 mois. Ce sera à ce moment qu'il vendra sa toute première nouvelle au magazine Esquire et publiera des critiques dans le Saturday Review. En 1964, Harrison s'installera avec sa famille à Fayetteville dans l'Arkansas, où il publiera ses premiers romans. Puis, en 1966, il fondera et co-dirigera un programme de maîtrise en beaux-arts de l'Université de l'Arkansas avec son collègue James Whitehead, programme auquel participera de nombreux écrivains et poètes américains et européens qui publieront par la suite des centaines de recueils de poésie et de fiction dans les plus grandes maisons d'édition new-yorkaises et universitaires. Durant sa carrière, Harrison recevra de multiples prix, dont le Guggenheim Memorial Fellowship in Fiction en 1973, le National Endowment for the Art Grant for Fiction en 1977, le Christopher Award for Television en 1970 et le Columbia School of Journalism Prize du magazine Esquire en 1971. De plus, Harrison a également siégé au conseil d'administration de 1970 à 1975 de l'Associated Writing Programs durant la période la plus forte de la croissance de l'écriture créative dans l'enseignement littéraire américain et va également siéger au conseil consultatif de la Commission du patrimoine naturel et culturel de l'État de l'Arkansas de 1976 jusqu'en 1981. Merle restera sa femme pendant plus de 50 ans, femme avec qui il aura 3 enfants, soit une fille et 2 garçons. Harrison décédera à sa résidence de Fayetteville le 22 octobre 2013, des suites d'une défaillance rénale, seulement quelques jours avant son 80e anniversaire. Mais l'un des moments les plus importants de sa carrière sera l'écriture de la nouvelle Rollerball Murder pour le magazine Esquire, en septembre 1973, une œuvre qui sera adaptée à 2 reprises au cinéma nord-américain, soit en 1975 par le réalisateur canadien Norman Jewison et en 2002 par le réalisateur américain John McTiernan. Dans cette histoire, l'on se retrouve dans une société future contrôlée par les entreprises qui produiront un jeu nommé Rollerball. Alors que les guerres seront mises de côté, ces entreprises produiront ce jeu de guerre à chaque semaine aux heures de grande écoute et la retransmettront au reste du monde. L'athlète le plus populaire de ce jeu de violence, Jonathan E., qui survit de partie en partie et reçoit tout ce que le monde a de meilleur à lui offrir, alors que les perdants, ceux qui sont chanceux, ne sont que mutilés, alors que les malchanceux vont mourir. Donc, mettez vos gants, attachez vos patins à roulettes, démarrez vos motos et préparez-vous à mettre la main sur cette balle de métal afin de participer à l'un des sports les plus brutals et les plus meurtriers du futur. J'ai nommé Rollerball.
No, that's not big enough. No, that's not big enough either. That's more like it. We're delighted to have you with us, and we extend a cordial welcome to you. We've lined up the top stars from Hollywood and from all over the world to entertain you on our giant screen with the new, colorful motion pictures you've been hearing about and reading about. To add to your enjoyment, we're all wound up to bowl you over at intermission time with live wire service at our snack bar, where you'll find a tempting variety of favorite foods and beverages. Your continued patronage is very, very welcome.
It's our pleasure to welcome you to your friendly drive-in theater. For the information of those who are attending the drive-in for the first time, the following hints will make you feel at home and add to your enjoyment. Firstly, if you've not already done so, remove the speaker from the stand and place it in your car. Secondly, adjust the volume control to suit your requirements. Right for loud, left for soft. We must issue this warning. No attempt should be made to disconnect the speaker. To do so, we'll immediately register a red light in our control room. Our ultra-modern snack bar is now open and ready to serve you. How about fresh fillets of fish with chips and salad? Tender steak with eggs, chips, and salad. A big cup of hot chips or fish and chips. Thick, crunchy hamburger. Giant-size hot dogs laced with sauce or mustard. Banana fritters with rich, full cream. Steaming hot coffee. Icy orange or lemon drink. Smooth, creamy ice cream. And a great range of sweets and chocolates. Our snack bar is open for service. One final word. Before leaving, replace the speaker on its stand. Then drive forward and move to your left. You must never reverse out of your position. Thanks, everyone. We trust you have a very pleasant evening.
Hotshot electric in-car heaters have been installed for your comfort and convenience. Just insert heater through car window and turn on the switch. When leaving, please turn switch off and replace on speaker post. Warning, high voltage. For your own safety, do not attempt to repair or remove wires. Do not attempt to open heater unit. If you need assistance, please notify the theater box office or concession manager.
The show is about to start. Thank you for your cooperation. Enjoy the show, and please come back and visit us again. And now, it's showtime.
Rated X.
Jonathan E., un grand nom. À Houston, les joueurs vont et viennent, mais le champion reste immuable. Vous savez à quel point le jeu nous sert. Il a un but social bien défini. Les nations ont fait faillite, toutes. Adieu pauvreté, adieu souffrance. L'homme a mené à bien la réalisation de son rêve. L'avènement de la société corporatiste était inéluctable. Aujourd'hui, la vie est bonne et les loisirs nombreux.
Obéissez à leurs ordres, Jonathan. C'est tout ce que j'ai à vous dire.
Des camps avant que je revienne.
Vous ne reviendrez pas, Jonathan.
Aucun joueur n'est plus grand que le jeu par lui-même. Et ce jeu n'est pas pensé pour grandir le joueur, Jonathan.
Je vois que tu ignores toujours pourquoi je suis venu ici.
Tu es la seule personne que j'ai voulu. Je t'ai voulu à mes côtés, c'est tout.
Les livres que vous avez commandés sont du domaine réservé. Il n'y a que des transcriptions abrégées.
Qui les a abrégées?
Zéro. C'est le cerveau du monde.
Et ça vous répond?
Oui, ça parle.
Je désirais avoir des informations sur les décisions corporatistes. Qui les prend et de quelle manière?
Ils ont peur de toi. Ils ont peur de toi, Jonathan.
Le jeu a été créé pour démontrer la futilité de l'effort au niveau de l'individu. Et le jeu y réussit superbement.
Un match! Le complexe ne pense pas que ça doive être un match!
Rollerball est un drame de science-fiction qui a été distribué par les studios United Artists le 25 juin 1975. Ce film américano-britannique-canadien d'une durée de 129 minutes a coûté 6 millions de dollars à produire et a amassé plus de 30 millions de dollars à travers le monde entier. Au poste de réalisateur, on y retrouve le metteur en scène canadien Norman Jewison, lui qui avait réalisé les films « In the Heat of the Night » et And Justice for All. Au niveau de la production, on y retrouve également le producteur canadien Norman Jewison, lui qui avait produit les films Jesus Christ Superstar et Fiddler on the Roof. Au niveau de la scénarisation, ce sera le scénariste américain William Harrison, lui qui avait écrit le scénario de Rollerball, mais également le scénario de Mountains of the Moon. Au niveau de la distribution, eh bien, on y retrouve James Caan, John Houseman, Maude Adams, John Beck, Moses Gunn, Ralph Richardson, Pamela Hensley, Barbara Trentham, John Normington et Shane Rimmer. En l'an 2018, dans un monde contrôlé par de vastes corporations industrielles qui sont arrivées à éliminer la guerre et la pauvreté, existe un sport professionnel qui a été mis au point pour satisfaire les instincts de violence de la population. Alors que son équipe se retrouve en éliminatoire, le champion reconnu de ce sport, Jonathan E., apprend que les directeurs de l'entreprise qui en régit l'ordonnance ont décrété sa mise à la retraite. Ce dernier refuse, ce qui force les hauts dirigeants de changer les règles du sport de partie en partie, rendant ce dernier des plus mortels. La nouvelle « The Rollerball Murder » paru pour la première fois dans le numéro de septembre 1973 du magazine Esquire. Écrit par le professeur d'anglais et d'écriture créative à l'Université de l'Arkansas, William Harrison, cette œuvre littéraire sera imaginée par son auteur après que ce dernier ait assisté à une violente bagarre sur un terrain de basketball lors d'un match universitaire. Alors que le combat avait lieu sur le terrain, les amateurs deviendront alors déchaînés, l'équipe locale revigorée, revenant de l'arrière et remportant la victoire. C'est à ce moment qu'Harrison s'interrogera sur la violence qui pourrait être exercée dans les sports d'un futur rapproché. Du côté du réalisateur canadien Norman Jewison, ce dernier venait d'assister à un match de hockey très violent entre les équipes de Boston et de Philadelphie. Alors qu'il y avait du sang sur la patinoire, le réalisateur remarquera que les quelques 16 000 spectateurs présents se levaient en hurlant, ces derniers approuvant fortement le type de violence démontré dans le match. Ce sera d'ailleurs ce souvenir qui reviendra au réalisateur lorsque ce dernier lira la nouvelle de Harrison, Jewison. Étant alors immédiatement captivé par le concept d'une violence extrême réalisée pour le divertissement de masse dans un avenir dominé par des entreprises. Après avoir été rejeté par les studios qui jugeaient l'histoire inadaptable au cinéma, Jewison approchera lui-même l'auteur William Harrison, qui avait le même agent que lui, et lui offrira alors plus de 50 000 $ pour acheter les droits cinématographiques. L'écrivain acceptera avec enthousiasme, mais demandera alors à Jewison d'écrire lui-même le scénario, ce à quoi acquiescera le réalisateur. Cependant, l'écriture sera loin d'être facile, Harrison et Jewison ayant des divergences sur le caractère sanglant du résultat final, l'écrivain regrettant constamment que le réalisateur n'ait pas été plus loin pour rendre le produit malaisant, alors que le metteur en scène, lui, refusait d'inciter son public à une violence totalement gratuite et sans signification. Ce sera finalement les studios United Artists qui accepteront de financer et de distribuer le film de science-fiction dystopique, allouant un budget de plus de 6 millions de $ au réalisateur. Clint Eastwood fut un temps en tête de liste pour le rôle principal de Jonathan Hee, mais ce sera finalement l'acteur James Caan qui obtiendra le rôle, le comédien étant une étoile montante depuis son apparition dans The Godfather en 1973. Jewison prendra la décision de donner le rôle à Caan après avoir vu ce dernier interpréter le personnage de Brian Piccolo dans le téléfilm de 1971, Brian's Song. Alors que le sport du rollerball n'était mentionné que vaguement dans la nouvelle originale de Harrison, la version cinématographique du jeu sera créée en grande partie par Jewison lui-même et son concepteur de production, le Britannique John Box, ce dernier ayant travaillé sur des classiques tels que Lawrence of Arabia. Combinant des éléments du roller derby, du hockey, du football, des courses de motocross et du judo, le jeu sera joué sur une piste ovale de plus de 575 pieds, conçue et créée par Herbert Schumann, qui avait précédemment conçu la piste des Jeux olympiques de Munich de 1972. La construction de cette piste de jeu sera réalisée par Box sur le terrain du Olympic Basketball Arena de Munich, selon les spécifications de Jewison, l'emplacement étant la seule enceinte sportive au monde à profil quasi-circulaire que la production pouvait reprendre et réaménager pour le tournage. Durant sa construction, James Caan partira en stage de rollerball en Californie pendant plus de 4 mois avec toute l'équipe d'acteurs et de cascadeurs, ces derniers apprenant les règles du jeu et apprenant également à patiner de façon sécuritaire sur la piste à travers les motos, et ce, 7 jours sur 7. Ce sera également Jewison qui sera à l'origine de la conception des gants de cuir avec pics portés par les joueurs. Le tournage débutera le 29 juillet 1974. En plus d'être tourné à Munich, en Allemagne, d'autres séquences où Jonathan Hee se rend à Genève pour consulter le superordinateur Zéro seront réalisées en Suisse et utiliseront des plans extérieurs du Palais des Nations à Genève. Toujours en Allemagne, les bâtiments du siège social et du musée BMW de Munich seront utilisés pour les scènes des bâtiments du siège de la compagnie Energy Corporation. Dès leur arrivée sur le plateau de tournage, l'équipe de production seront confrontées à un problème de taille. En effet, la piste de jeu était inclinée avec des courbes de niveau de 4 mètres de haut et non plate, comme celle sur laquelle les acteurs et cascadeurs s'étaient entraînés, faisant en sorte que ces derniers passaient leur temps à tomber lorsqu'ils ralentissaient leur vitesse. Rapidement, Jewison perdra le contrôle du tournage au profit de sa star, James Caan, qui inventera ses propres répliques. Les cascadeurs, dont certains étaient amis avec Caan, ont commencé à exiger leurs propres répliques et ont même réécrit une des scènes. L'ensemble du plateau de tournage est apparemment devenu très compétitif et une sorte d'ambiance sportive régnait, les cascadeurs jouant souvent sur la piste, même lorsque la production ne tournait pas, ceux-ci inventant leurs propres règles du jeu. Au niveau des figurants, plusieurs d'entre eux recevront un bonus salarial pour se faire couper les cheveux afin d'éviter que le long métrage ne soit trop lié à l'époque à laquelle il fut tourné, soit le milieu des années 70. De plus, le réalisateur vivra de sérieuses inquiétudes quant au nombre de figurants nécessaires pour rendre les séquences se situant à Tokyo crédibles. Afin de trouver grand nombre d'Asiatiques en Allemagne, l'équipe de production distribuera des prospectus dans les hôtels locaux, ce qui permettra à plus de 150 Asiatiques enthousiastes de se présenter pendant les jours de production prévus. Le reste des figurants seront des personnes locales qui seront alors invitées à assister aux différents matchs. Tourner les scènes sportives était incroyablement périlleuse, à un point tel que lorsque débutera le tournage, le réalisateur canadien sera terrorisé à l'idée que quelqu'un pourrait se tuer durant la production. Cependant, contrairement aux rumeurs, personne n'est mort pendant le tournage des cascades du film, mais quelques blessures graves surviendront, dont quelques-unes nécessiteront une hospitalisation. D'ailleurs, un des cascadeurs sera alité pendant plus de 6 mois suite à une blessure pendant l'entraînement, alors qu'un autre sera hospitalisé en plein tournage. Plusieurs cascadeurs seront également blessés, tout comme l'acteur James Caan qui se fracturera l'épaule et se blessera également à une côte. De plus, durant le tournage d'un des matchs de Rollerball, certains spectateurs étaient tellement devenus énervés qu'à un certain moment, ceux-ci ont sauté une des barricades de protection et ont attaqué Caan, qui sera alors blessé au bras. Malgré cet incident, Caan savourera le côté physique très exigeant du tournage, mais aura du mal à rester intéressé par son personnage, dont on avait pratiquement enlevé toute trace d'émotion. Au niveau des motos utilisées dans le film, il s'agissait ici de Honda CB125 avec un moteur à 4 temps refroidi par air, modifié avec des plaques d'acier et une barre de remorquage placée à l'arrière. Le tournage sera complété en novembre 1974, les dernières séquences étant tournées à la centrale électrique de Fawley, près de Southampton, en Angleterre, alors que d'autres seront tournées au studio Pinewood, à Londres. Durant le montage, ce sera le compositeur allemand André Previn qui s'occupera de composer la musique classique, celle-ci étant interprétée par le London Symphony Orchestra. Previn sera également l'auteur de la musique du Executive Party, ainsi que des hymnes des équipes jouées avant les matchs. Pour la toccata et fugue en ré mineur de Bach, celle-ci sera interprétée à l'orgue par Simon Preston pendant le générique d'ouverture et à nouveau lors du générique de la fin. L'adagio en sol mineur d'Albinoni Giazotto et le mouvement Largo de la symphonie numéro 5 de Chostakovitch serviront également à donner le ton, l'ambiance et l'atmosphère du long métrage. Durant le montage, une grande partie des dialogues de Harrison seront remplacés par des dialogues interprétés par les acteurs et cascadeurs. Pour ajuster le tout, des voix off supplémentaires seront créées par un commentateur sportif qui ne figurait pas à l'origine dans le script de départ. United Artists et le réalisateur Norman Jewison auront beaucoup de problèmes avec le MPAA qui donnera alors une classification restricted au long métrage. Les exécutifs de la United Artists feront appel de cette décision, mais le Code and Rating Appeal Board maintiendront cette classification. À sa sortie en salle, le film, qui fut tourné en 35 mm avec un format d'image de 1.85, sera présenté dans certains cinémas en 70 mm avec un format d'image de 2.10. Rollerball sera présenté en salle en Amérique du Nord le 25 juin 1975 et à Londres le 4 septembre de cette même année. Le drame de science-fiction amassera plus de 6,2 millions de dollars de recettes en salle aux États-Unis et au Canada et un 19,8 millions de dollars additionnels dans le reste du monde, terminant au 12e rang du box-office de 1975. Même si les critiques étaient mitigées, le jeune public fut en adoration avec le film, au point que cet été-là, dans les rues de la Californie, des adolescents reconstituaient les scènes à moto tout en créant leur propre costume de rollerball avec des gants de cuir avec pic, horrifiant alors le réalisateur Norman Jewison, qui sera également contacté à plusieurs reprises par des promoteurs qui voulaient qu'il cède les droits du jeu afin de créer de véritables ligues de rollerball. Profitant alors de la popularité du film, l'auteur William Harrison publiera durant l'année 1975 un recueil de plus d'une douzaine de courtes nouvelles, recueil qui sera intitulé Rollerball. Ce livre incluait des œuvres qu'il avait écrites entre 1968 et 1973, incluant bien sûr sa nouvelle Rollerball Murder, qui fut l'inspiration directe du film à succès. En 1985, la compagnie IGK Software produira un jeu vidéo appelé Rocketball pour Commodore 64, dont les règles de score étaient basées sur le jeu du film de science-fiction. En 1989, Microïd a publié un successeur non officiel intitulé Killer Ball pour Atari ST, Amiga, Amstrad CPC et MS-DOS. En 1997, Z-Axis Games développera une adaptation officielle du jeu vidéo Rollerball, basée sur le film dans le cadre de la programmation de MGM Interactive. L'action du jeu se déroulait 10 ans après les événements du long-métrage de 1975, le joueur, étant alors chargé de gérer sa propre équipe de Rollerball à travers le monde, équipe qui était composée de joueurs jouant des rôles tels que des attaquants, des exécuteurs, des gardes et d'autres joueurs s'affrontant sur des motos à réaction et des patins à roulettes magnétiques. Rollerball, de Video Game, devait sortir sur PlayStation, Nintendo 64 et les ordinateurs PC au premier trimestre de 1998, mais sera retardé jusqu'à la mi-1998, puis annulé en raison de la faillite de l'éditeur MGM Interactive. Finalement, en 2004, la compagnie iPlay développera et publiera un jeu de Rollerball pour cellulaire basé sur le film de 1975 et non sur le remake du même nom de 2002. Malheureusement, 50 ans après la création de ce classique de la science-fiction, le réalisateur et producteur canadien Norman Jewison décédera paisiblement à son domicile de Malibu le 20 janvier 2024 à l'âge de 97 ans. Quant au compositeur André-Georges Prévin, ce dernier perdra la vie le 28 février 2019 à son domicile de Manhattan, à l'âge de 89 ans. John Houseman perdra également la vie le 31 octobre 1988 à l'âge de 86 ans, des suites d'un cancer de la colonne vertébrale à son domicile de Malibu, en Californie. Pour Moses Gunn, ce dernier décédera des suites de complications liées à l'asthme à Guilford, dans le Connecticut, le 16 décembre 1993, à l'âge de 64 ans. Et finalement, l'acteur James Edmund Kahn perdra la vie le 6 juillet 2022 au centre médical Ronald Reagan de UCLA à Los Angeles à l'âge de 82 ans. Kahn décédera des suites d'une crise cardiaque due à une maladie coronarienne et souffrait également d'une bronchopneumopathie chronique obstructive et d'une insuffisance cardiaque congestive. Reconnaissant leur contribution aux nombreuses séquences d'action cruciales du film, Rollerball sera la toute première grande production hollywoodienne à créditer ses cascadeurs. Le lutteur professionnel britannique Mark Hussey, connu de son nom d'artiste comme Rocco et qui fut l'un des cascadeurs du long-métrage, utilisera plus tard le nom Rollerball comme nom de lutteur. Hussey décédera le 30 juillet 2020 dans une maison de retraite de Warrington à l'âge de 69 ans, ce dernier ayant lutté contre la démence pendant une longue période de sa vie. Du côté des points forts, eh bien, le point principal de ce film d'anticipation est sans contredit les séquences de jeu qui sont admirablement bien filmées ici par le réalisateur, un réalisateur en plein contrôle de sa technique. On en redemande plus, on aurait souhaité moins de bavardage et peut-être un peu plus de séquences de match. Le visuel du film est typique du genre de science-fiction des années 70. De plus, le scénario, bien que faible ici, prend la peine de souligner le conflit politique et social du contrôle de la société par des multinationales, une critique sociale qui est encore très d'actualité aujourd'hui, même après 50 ans d'existence. Comme il est coutume dans les drames d'anticipation de cette époque, le réalisateur n'hésite pas à pousser jusqu'à leur limite certains mœurs actuelles, plus précisément l'importance prise par la violence dans le sport professionnel. Finalement, le réalisateur et son directeur photo nous donnent un excellent visuel, gardant l'aspect futuriste très terre-à-terre afin de permettre au film d'être encore très d'actualité aujourd'hui. Mais du côté des points faibles, eh bien, si les développements de l'intrigue apparaissent complexes, le scénario, lui, est un peu mince et se retrouve même très répétitif, notre héros se posant une question qui demeure sans réponse pour lui, tout comme le spectateur. À cause de cela, le film a d'énormes longueurs entre les séquences de jeu, quelque chose qui aurait pu être coupé au montage sans grande problématique, chose que l'auditoire ne s'en serait même pas rendu compte. D'ailleurs, en dehors des séquences du jeu, le rythme est beaucoup trop lent et devient même par moments ennuyeux, le personnage principal étant dénué d'émotion, ce qui n'aide pas les choses. À cause de cela, la distribution n'est pas trop convaincante, semblant chercher continuellement sa place dans un film dont le sujet de base, en dehors du jeu, ne semble pas très clair.
Mr. Projectionist, stop the show. Here's great news you ought to know. We've just got a shipment of taste-thrilled treats, all tip-top quality and delicious eats. There are hot dogs and popcorn and candy galore. There are soft drinks and coffee and a whole lot more. So direct your steps to our refreshment stand to enjoy the finest snacks in all the land.
Yes, folks, it's intermission time. So how about taking a break? Get out and stretch a little and relax before the show begins again. And why not make it refreshment time, too? We have lots of tasty, delicious treats waiting for you at the refreshment center. There's hot popcorn, so golden good and fresh out of the popper. And all kinds of refreshing ice-cold soft drinks. Sizzling hot dogs just bursting with juicy goodness. Ice cream so smooth and delicious, you'll hanker for more. Plus, all the most popular candy bars and many other favorite treats. So why not visit the refreshment center now? Our courteous attendants are ready and waiting to serve you with a wide and wonderful variety of good things to eat and drink. So step right up and make yourself at home.
It's intermission. Rise and stretch time. Time to refresh yourself and visit our snack bar. Got a yen for hot popcorn? Your favorite soft drinks are sparkling cold. The juicy Frank sizzling hot. There's delicious coffee freshly brewed. And all kinds of ice cream and candy to tempt you. Showtime will be announced loud and clear to get you back to your car in time. So stretch your legs. Come to the snack bar now.
We're now just 1 minute away from the beginning of our next feature. For your convenience, our refreshment stand will remain open after the feature begins, so you still have time to add to the fun of watching the movie. Before we begin our next feature, we'd like to remind you to replace your speaker before leaving the theater. If it is accidentally damaged, please notify someone at the refreshment stand. Again, thank you for coming out to the drive-in tonight. As you leave, please drive carefully and come back soon.
And now, on with the show.
Get more out of life. Go out to a movie.
Wasting your life. The break you need is right here. If you make the team, pow.
It's time to play Rollerball!
It's the world's number one phenomenon.
I created a sport that you could thrive in.
And three players rule the game.
I told you, it's the promised land.
On three. One, two, three.
Across the
score. Gotta catch me first.
Let's go, go!
Aurora, the Black Widow.
Just get out of my way.
Martha's really hardcore.
We play, we win.
Come on! He's the angriest man in the game.
Now we will all get big bonus thanks to Jonathan and to Billy.
Jonathan, they knew.
What are you talking about?
Here, look. One camera follows the action, and four cameras follow Toba 15 seconds before it happened.
Nothing goes on in this place without you knowing it.
Oof.
Now.
It was
only a matter of time before one of these creeps realize that their tape will go up as soon as they get a little blood on the track.
The world's most dangerous game.
Have you thought about the girl?
People disappear all the time.
Will become deadly. And the only chance they have...
What's it gonna be? Us or them?
...is to fight back.
Get out of the car! They're going to kill you!
Grab hold! Now I know y'all be loving this right now!
We deal with this on the track ourselves.
This may be getting out of hand. Maybe we should call the whole thing off.
No.
Rollerball.
Let's play the game.
Rollerball est un drame de science-fiction qui a été distribué par les studios Metro Goldwyn Mayer le 8 février 2002. Ce film américano, japonais et allemand d'une durée de 98 minutes a coûté 70 millions de dollars à produire, mais n'a amassé que 25,9 millions de dollars à travers le monde entier. Au poste de réalisateur, on y retrouve le réalisateur américain John McTiernan, lui qui avait réalisé des films tels que Predator, The Hunt for Red October et Die Hard. Au poste de producteur, on y retrouve les producteurs américains John McTiernan, lui qui avait produit les films Last Action Hero et Die Hard with a Vengeance, ainsi que Charles Roven, lui qui avait produit les films 12 Monkeys, Heart Like a Wheel et la version de 2002 de Scooby-Doo. À leur côté, se trouve la productrice américaine Beau Mary Sinclair, elle qui avait produit les films Evelyn et la version de 1999 de The Thomas Crown Affair. Au niveau de la scénarisation, eh bien, ce seront les scénaristes américains Larry Ferguson, qui avait écrit les scénarios de Highlander, The Presidio et Alien 3, ainsi que John Pogue, qui avait écrit les scénarios de The Skull, U.S. Marshall et The Quiet Ones, qui écriront le film ici. Dans la distribution, on y retrouve Chris Klein, Rebecca Roman, Jean Renault, LL Cool J, Naveen Andrews, Mike Doput, Andrew Briniarski, Lucia Richker, Oleg Tarov, Paul Heyman et Janet Wright. Le joueur étoile d'un sport extrême spectaculaire découvre que le propriétaire et créateur de ce nouveau jeu crée des accidents avec blessés afin d'augmenter les cotes d'écoute lors des retransmissions télévisées, transformant les matchs en une compétition où tous les coups deviennent permis. Alors qu'il était en plein tournage sur le remake du drame policier de Thomas Crown Affair, mis en scène originellement en 1968 par le metteur en scène Norman Jewison, le réalisateur et producteur John McTiernan aura l'idée de refaire un autre film de Jewison, cette fois-ci le drame de science-fiction de 1975, Rollerball. Thomas Crown Affair aura un succès monstre en salle au point que McTiernan approchera les exécutifs du studio United Artists avec qui il venait de travailler sur son dernier long-métrage et fera part de son nouveau projet. Satisfait du travail de McTiernan, les dirigeants du studio accepteront alors de soutenir son intérêt pour développer ce nouveau remake et accepteront alors de financer et de distribuer le prochain film du réalisateur. Larry Ferguson, qui avait déjà travaillé avec McTiernan sur le film The Hunt for Red October, sera alors approché pour écrire une première version du scénario. Basé surtout sur le scénario original de l'auteur William Harrison, Ferguson commencera à travailler sur le nouveau script, une version jugée excellente par les exécutifs de la United Artists, ces derniers jugeant même cette dernière supérieure à celui du film original. Cependant, McTiernan n'était pas intéressé au côté critique social du script, pensant alors que le public serait plus intéressé aux séquences de jeu et d'action et approchera alors les scénaristes David Campbell Wilson et Howard Rodman pour une réécriture. McTiernan, toujours insatisfait de son scénario, embauchera alors le scénariste John Pogue, avec qui il travaillera afin de remettre une version finale et ainsi se lancer dans la pré-production de son nouveau remake. S'attaquant alors à sa distribution, le réalisateur-producteur souhaitait trouver un acteur capable de donner un équilibre entre le respect de l'esprit du film original et la capacité de séduire un public plus contemporain. Ce sera donc l'acteur Keanu Reeves qui sera approché, mais ce dernier refusera l'offre. Nicolas Cage sera également approché pour le rôle de Jonathan Cross, mais ce dernier dut également refuser préférant travailler sur la comédie fantaisiste de Family Man. Ce sera donc l'acteur Chris Klein, qui venait tout juste de terminer son travail dans le film American Pie numéro 2, qui obtiendra le rôle principal. LL Cool J, Jean Reno, Naveen Andrews et Stellan Skarsgård seront par la suite engagés, tout comme l'actrice Rebecca Romijn, qui acceptera seulement après que certaines séquences de nudité soient supprimées du scénario et que son personnage se voit donner une profonde cicatrice au niveau de son visage afin de rendre celui-ci plus réaliste à l'histoire. Shane McMahon, fils de l'ex-propriétaire de la WWE Vince McMahon, la chanteuse Pink et les membres du groupe de musique Slipknot auront tous des caméos dans le long-métrage. Matilda Svidagis, qui deviendra plus tard connue pour son rôle de Zelda dans la série télé The Marvelous Mrs. Maisel, était censée faire ses débuts d'actrice créditée dans ce film, mais malheureusement pour elle, son rôle sera finalement coupé au montage. Le tournage principal de 15 semaines débutera en juillet 2000 pour se terminer en novembre, ce dernier se situant à Montréal et à Blainville au Canada, ainsi que dans le Wyoming et à San Francisco aux États-Unis. Les décors du drame de science-fiction seront alors conçus par le chef décorateur tchèque Jan Stewart. Alors que le film de 1975 utilisait un lieu réel, la version de 2002 a adopté une approche totalement différente, construisant les décors sur des plateaux de tournage et utilisant des fonds verts pour les séquences dynamiques et axées sur l'action. L'arène futuriste sera conçue et construite principalement à Lethbridge, en Alberta, alors que le bâtiment, qui servira d'arène sportive en Azerbaïdjan, sera celui du pavillon de la France à l'Expo 67 de Montréal, devenu aujourd'hui le Casino de Montréal. Durant toute la durée du tournage, le scénario sera continuellement remanié, McTune souhaitant privilégier le spectacle style action plutôt que l'histoire de fond. Une fois le tournage terminé, le film ira directement au montage, donnant une version finale de plus de 122 minutes. Le compositeur Brian Trenso, qui venait tout juste de terminer son travail sur le film de Vin Diesel, The Fast and the Furious, sera alors embauché pour réaliser la partition musicale du remake, dont la sortie était cédulée pour l'été 2001. Confiant, McTiernan organisera une projection test en mai. Cependant, les exécutifs de la United Artists ainsi que le public présent réagiront très négativement au film, forçant alors les producteurs à revoir leurs produits. De plus, les dirigeants de la MGM, qui allaient distribuer le long-métrage, désiraient une cote PG-13, ce qui voulait dire que de nombreuses séquences contenant de la nudité et de la violence brutale devaient être retirées du long-métrage. Ce sera à ce moment que le nouveau directeur de marketing et de la distribution de la MGM, Robert Levin, convaincra McTiernan d'abandonner la sortie estivale du 13 juillet de son film, lui donnant alors plus de temps pour refaire certaines prises de vue et ainsi remonter le film pour une classification PG-13. Après une sortie en salle reportée au début de l'année 2002, McTiernan obtiendra 2 semaines de tournage supplémentaires vers la fin de l'année 2021. L'une des séquences qui dut être refaite entièrement fut la poursuite nocturne à moto dans le désert d'Arabie, qui fut à l'époque tournée de façon trop sombre. Lorsque la séquence sera reprise, durant les reshoots, les prises seront de nouveau inutilisables, forçant alors l'équipe de production à trouver une solution, le budget alloué aux reprises étant alors complètement épuisé. Retournés en vidéo plutôt qu'en pellicule, les membres de l'équipe de production décideront alors de simplement appliquer un filtre de vision nocturne, même si cela n'avait aucun sens dans le contexte de l'histoire. De plus, environ 30 minutes durent être coupées au premier montage, certaines coupures étant demandées par les exécutifs de la MGM afin d'obtenir la fameuse classification PG-13. Certaines scènes d'action furent enlevées ou retravaillées afin d'expliquer ou améliorer des scènes jugées trop confuses. Le numérique sera également utilisé afin de remplacer des giclées de sang par de la sueur et pour camoufler une grande partie de la nudité que McTiernan jugeait si nécessaire à l'intrigue de son rollerball. Une autre modification majeure demandée sera celle de l'abandon de la trame musicale du compositeur Brian Tresso, qui fut à ce moment jugé trop arabesque. Ce sera alors le compositeur français de techno et de New Age, Eric Serra, qui sera chargé de réaliser rapidement la nouvelle partition musicale, tandis que certaines chansons initialement incluses dans la bande originale furent également supprimées ou modifiées pour le film. D'une durée de seulement 99 minutes, Rollerball sera diffusé dans plus de 2762 cinémas en Amérique du Nord, mais n'amassera qu'un maigre 9 millions de dollars lors de son premier week-end, arrivant troisième au classement nord-américain derrière Big Fat Liar et Collateral Damage. À son deuxième week-end, le film disparaîtra du top 10 pour finalement disparaître des salles seulement 7 semaines après sa sortie, terminant avec un maigre 18 millions de dollars aux États-Unis et au Canada, le film n'amassant qu'un maigre 6 millions de dollars au niveau international. Avec un budget final de plus de 70 millions de dollars, sans compter les frais au niveau du marketing, le drame de science-fiction sera considéré comme un échec colossal, tant au niveau monétaire que critique au niveau journalistique, mais également au niveau du public. Le film sera nominé pour plusieurs prix, dont le Golden Raspberry Award de la pire actrice dans un second rôle. Cependant, la comédienne Rebecca Romijn ne remportera pas le prix, ce dernier étant alors remis à la chanteuse Madonna pour son apparition dans Die Another Day. Au Stinkers Bad Movie Award de 2002, Rollerball remportera plusieurs prix, dont celui du pire réalisateur, du pire remake et du pire faux accent féminin. Au milieu de tout cela, McTiernan deviendra convaincu que son coproducteur Charles Roven cherchait à saboter sa vision et le renvoyer de la production, et il engagera alors le détective privé Anthony Pelicano pour mettre Roven sur écoute afin de découvrir des informations compromettantes sur le producteur, cherchant à obtenir un avantage dans ce conflit professionnel, notamment envers les propos négatifs de ce dernier sur les dirigeants des studios MGM. Cependant, lorsque Roven eut vent du stratagème, ce dernier engagera un avocat pour enquêter, forçant le réalisateur à mentir ouvertement aux autorités lors de diverses enquêtes, dépositions et audiences. Lorsque le FBI enquêtera sur les activités de Pelicano, McTiernan nuira toute implication avec l'individu et sera alors accusé de fausses déclarations au FBI et de parjure. En 2006, le réalisateur plaidera coupable, mais tentera par la suite de se rétracter, affirmant que son avocat l'avait induit en erreur. Cette tentative échouera, et en 2010, McTiernan sera condamné à un an de prison fédérale, 3 ans de probation avec sursis et une amende de plus de 100 000 $. Il commencera à purger sa peine de prison en avril 2013, avant d'être assigné à sa résidence pour le dernier mois, soit en février 2014. Bien que le séjour en prison de McTiernan n'ait pas été particulièrement long, cette situation ternira considérablement sa réputation à Hollywood, mettant un terme à sa carrière. Son dernier film, Basic, réalisé un an après Rollerball, étant également un échec commercial. Fait cocasse, le producteur Charles Roven continuera sa carrière à Hollywood et amassera l'Oscar du meilleur film pour son travail sur Oppenheimer de Christopher Nolan en 2023. De ce remake, certaines personnes nous ont malheureusement quittés. Ce sera le cas de l'actrice et réalisatrice britannique Janet Wright, qui décédera le matin du 14 novembre 2016 à Vancouver, à l'âge de 71 ans, après des années de troubles de santé. Pour la productrice américaine Beau Mary St. Mary, cette dernière, dont le mari, le producteur Lloyd Phillips, décédera d'une crise cardiaque en janvier 2013, perdra la vie des suites d'un cancer de l'ovaire à son domicile de Malibu, en Californie, le 9 janvier 2016, à l'âge de 63 ans. La productrice, qui était une bonne amie de l'acteur Pierce Brosnan et qui avait créé une maison de production avec l'acteur nommé la Irish Dreamtime Production, avait lutté vaillamment contre son cancer pendant plus de 10 longues années. Du côté des points forts, eh bien, le point positif de cette nouvelle version de Rollerball est sans contredit son rythme endiablé qui ne laisse aucune chance à son histoire de tomber dans une platitude visuelle. Bien que le scénario soit nettement inférieur que celui du film original, cette version a l'avantage de nous présenter l'arrière-scène financier de ce sport brutal et explique plus clairement les raisons pour lesquelles Jonathan se rebelle contre les créateurs du Rollerball. Mais c'est ici que s'arrêtent les qualités de ce film. Car là où l'original nous donnait des séquences de jeu palpitantes, cette version de Rollerball se veut vide d'intérêt, le scénario étant tout simplement inexistant, le réalisateur ne s'attardant qu'à nous donner ici une direction adolescente où la musique forte, les explosions et la violence sont l'outil d'intérêt principal de cette version dans laquelle on oublie le message critique social. La mise en scène nous rappelle principalement ici des films tels que la récente franchise des Death Race. De plus, le jeu comme tel se veut beaucoup trop compliqué et stupide, la piste ne permettant pas aux réalisateurs de nous présenter des matchs faciles à suivre et qui sont alors mal tournés et dénués de toute logique. De plus, le réalisateur nous présente un sport situé dans notre présent et se sert de pays sous-développés ou fascistes afin de permettre à ce dernier d'exister, une façon de prendre de multiples libertés au niveau de la logique et surtout au niveau du traitement humain de nos héros. La production est ici tout simplement mauvaise, le montage agressif est tout simplement horrible, ne crée ici que de la confusion pour le spectateur. Même le visuel tombe à plat, celui du film original étant nettement supérieur. Même la distribution est moyenne, on a une excellente distribution ici, mais les acteurs semblent manquer de motivation, dû principalement à cette intrigue boiteuse et trop chaotique. Au final, c'est un résultat navrant et triste pour le dernier grand film d'un réalisateur qui nous a donné des classiques tels que The Hunt for Red October, Predator et le tout premier Die Hard. Du côté des cotes artistiques, eh bien, Rollerball version 75 a été coté par Mediafilm 4. J'y vais également avec un 4. Du côté de l'âge et du contenu, la régie du cinéma a coté le film très indicatif. J'y vais également avec une cote de 14 ans pour des scènes de violence. Du côté de la version de 2002 de Rollerball, eh bien, Mediafilm a coté le film 5. Moi, j'y vais avec un 6. Au niveau de l'âge et du contenu, la régie du cinéma cote le film très indicatif. J'y vais également avec une cote de 14 ans pour des scènes de violence, de nudité et un langage vulgaire. Maintenant, pour la disponibilité au niveau des DVD et des Blu-ray, le film Rollerball de 1975 est disponible en français et en anglais en DVD et en Blu-ray et est également disponible en 4K dans sa version originale anglaise. Il y a également un coffret 3 disques Limited Collector Edition Media Book qui inclut une version 4K Ultra HD, une version Blu-ray et également un disque bonus en Blu-ray disque. Pour le film de 2002, eh bien, Rollerball est disponible en français et en anglais, en DVD et en Blu-ray. Et finalement, vous êtes capable d'avoir les deux films en DVD sur un coffret double qui inclut les deux films, c'est-à-dire Rollerball, la version de 1975, ainsi que la version de 2002. Ce disque inclut bien sûr les films en français et en anglais.
Coming soon to a theater near you.
You know, I've been coming in for 6 years, and 6 years you've been sticking it to me. I want to know how come.
You want to know?
I want to know how!
Okay, I'm going to tell you. Because you had the talent to become a good fighter. And instead of that, you became a leg breaker. Some cheap second-rate loan shark.
It's a living?
It's a waste of life.
I figure if I break the guy's thumb, he gets laid off, right? He can't make
yeah, well, don't figure. Let me do the figuring, okay, Rock? From here on, just let me do the figuring.
Rocky, do you believe that America is the land of opportunity?
Yeah.
Apollo Creed does. And he's going to prove it to the whole world by giving an unknown a shot at the title.
I need your help about 10 years ago, right? 10 years ago? You never helped me. You didn't care.
Well, if you wanted help, I say, if you wanted help, why didn't you ask? Why didn't you just ask me, kid?
Look, I asked, but you never heard nothing. Nobody's ever gone the distance from Creed. And if I can go that distance, seeing that bell rings and I'm still standing, I weren't just another bum from the neighborhood.
Hey, I don't believe it! Hey, the champ is down!
Down, stay down!
You didn't beat nobody, and anybody who knows boxing knows the fight was fixed.
Why can't you ignore it?
I was wondering if you wouldn't mind marrying me very much.
Why go after Bell?
Because there's still a lot of people out there that think he won. I want something done publicly to bring this man up.
You realize that you're setting yourself up as the bad guy.
Look, ma'am, whatever gets him in the ring.
The man's running, the man's hiding, the man doesn't want to face me.
What are you gonna do?
I don't know, I was thinking about fighting.
I want all of Philadelphia, I want all of America, I want the whole world to see me destroy this man after two short rounds.
Rocky, please. You don't have to prove anything.
It's all I know.
Let's take a break, okay?
Come November, you're mine.
I never asked you to stop being a woman, you know. Please, don't ask me to stop being a man.
Now he's all finished. Forget this bum. Man, I won, but I didn't beat him.
You go back to being a two-bit nothing, but don't you ever come back here again, because I'm too old to waste my time trying to train a no-good loser like you.
Don't worry about nothing. You just sleep as long as you want, okay? And I'm gonna be here when you wake up.
Don't lay down in front of me like this. Why don't you stand up and fight this guy hard?
Those of you who are watching tonight's telecast, we're either going to see a real great battle in every sense of the word.
There's one thing I want you to do for me.
What?
Win.
C'est ainsi que se termine notre émission d'aujourd'hui. Si vous désirez en savoir plus sur ce podcast, je vous invite à vous rendre sur la page web de fantasticaradioweb.com, Fantastica avec un K, sur laquelle vous verrez apparaître une section podcast dans le haut de la page. En appuyant sur ce lien, il apparaîtra plusieurs sous-sections, dont une associée à Programme Double, endroit où vous trouverez tous les liens reliés à cette émission, soit pour l'application web qui vous permettra d'avoir un accès direct aux précédentes émissions réalisées jusqu'à présent, ainsi que les autres liens, soit pour écouter ou télécharger ces dites émissions. De plus, vous y trouverez une icône pour m'envoyer un email afin de me remettre vos commentaires ou encore des suggestions de longs métrages dont vous aimeriez que je parle à l'émission. C'est à cet endroit que vous y trouverez également les explications aux différentes cotes que je donne aux différents sujets que j'aborde, que ce soit les cotes artistiques ou encore sur le classement au niveau de l'âge de visionnement. Finalement, je vous suggère également de vous abonner à la page Facebook de Programme Double afin de demeurer averti de la diffusion des nouvelles émissions à venir. De plus, il vous est également possible d'écouter mon autre podcast, Fantastica, une émission style radio où je parle avec mon co-animateur des diverses passions qui existent dans notre quotidien et qui est également diffusée une fois ou deux semaines. Je vous remercie donc de votre écoute et on se dit à la prochaine édition de Programme Double.
Attention, please. A $50 reward will be paid for information leading to the arrest and conviction of anyone caught stealing our speakers. If you accidentally pull a speaker loose, don't worry. Just turn it in. There is no charge, and we'd appreciate it. And now, folks, it's time to say goodnight. We sincerely appreciate your patronage and hope we've succeeded in bringing you an enjoyable evening of entertainment. Please drive home carefully and come back again soon. Good night. As you leave the theater, folks, please be careful. Don't let this happen to your car. Be sure to remove the speaker before you leave. If you should accidentally pull a speaker loose, please turn it in at our snack bar or box office. Thank you. Thank you.